Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. L'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, a mené la première enquête spécifique sur la santé des immigrés d'Afrique subsaharienne vivant en France. Et l'enquête analyse au départ les parcours de vie des personnes atteintes du VIH-Sida et des hépatites. Et on va voir tout au long de cette émission qu'elle va bien plus loin, justement, sur l'enquête sur l'état de santé de ces personnes. Trois personnes en plateau pour en parler. D'abord, Annabelle Desgrés-Duloup, qui est démographe, directrice de recherche à l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Elle a publié Parcours de vie et santé des Africains immigrés en France, qui est paru aux éditions de La Découverte. Également avec nous Romain Birimbindi, qui est directeur de l'association Afrique Avenir à Paris, et Fred Eboko, qui est directeur de recherche à l'IRD et directeur adjoint du Centre Population et Développement de l'Université Paris-Descartes. Si vous avez envie d'intervenir, d'apporter votre témoignage ou de poser des questions, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, nous retrouverons en fin d'émission la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, qui est médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo.
RFI.
Annabelle Desgrés-Duloup, Romain Birimbindi et Fred Eboko, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous
bonjour.
Les trois d'être là pour parler de ce sujet absolument passionnant et de cette enquête que vous avez menée sur la santé des migrants originaires d'Afrique subsaharienne. On sait que ces populations migrantes d'Afrique subsaharienne, Annabelle Desgrés-Duloup, sont particulièrement touchées par le VIH-Sida. Elles représentent aujourd'hui 38% des nouvelles infections en France. Vous avez mené donc avec la NRS cette étude parcours dans laquelle vous avez exploré justement le parcours de 2500 personnes, le parcours de santé, mais pas que, je dirais aussi le parcours migratoire. Votre point de départ, c'était donc le sida, la fréquence de l'épidémie et la question des contaminations. Et en fait, la découverte de votre étude, où presque tout le monde, je dirais, tombe des nues, c'est que les migrants ne sont pas arrivés en France avec le VIH-Sida, ils l'ont contracté sur place.
Oui, alors... Pas tous,
mais
effectivement,
une bonne moitié.
Selon les estimations, un tiers à la moitié des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui vivent avec un VIH en France ont attrapé ce VIH après l'arrivée en France.
Donc ça, c'est une des premières informations de cette étude. On est presque étonné. Ce n'était pas l'image collective qu'on en avait.
Non, et c'était pas du tout un résultat auquel on s'attendait. C'est un résultat auquel on est arrivé un petit peu par hasard, parce qu'effectivement, comme vous le dites, l'enquête s'appelle parcours, pour même parcours de vie. Notre idée, c'était de regarder la place du VIH, mais pas que, aussi de l'hépatite B, qui sont les deux maladies qui touchent beaucoup cette population, et de regarder la place qu'elle prend dans la vie des gens. Donc, quand est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? Quand est-ce qu'on découvre ces maladies? Voilà. Donc, du coup, on s'est donné les moyens de collecter des informations sur toute la vie des gens. Et du coup, en se donnant ces moyens-là, ben, on a réussi à regarder quand est-ce que la maladie a été contractée.
Donc, quels sont les autres grands points, et on y reviendra au fur et à mesure, qui ressortent de cette étude? Donc, un, vous l'avez dit, finalement, entre un tiers et la moitié des personnes contractent le VIH-Sida une fois sur le territoire français. Quels sont les autres points?
Alors, l'autre grand résultat, c'est la précarité que rencontre l'ensemble de cette population à l'arrivée en France. Quand je dis l'ensemble de cette population, c'est-à-dire que même ceux qui sont arrivés avec un bon bagage intellectuel, culturel, professionnels, rencontrent cette précarité qui dure 6 à 7 ans, on le verra. Donc voilà, tout le monde se retrouve face à ces années d'insécurité à l'arrivée en France. Une partie des personnes contractent le VIH et on va montrer que les deux sont liés.
Et le troisième point important de cette étude, ce sont les autres pathologies, les maladies justement comme le diabète, les maladies cardiovasculaires.
Alors on n'avait pas les moyens d'enquêter sur l'ensemble de toutes les maladies, mais par contre on a enquêté sur la santé mentale par exemple. On a vu des niveaux d'anxio-dépression très élevés, sur des problèmes aussi d'obésité, de surpoids qui engendrent, on le sait, des maladies cardiovasculaires qui sont aussi à des niveaux très élevés.
Il y a des problèmes entre guillemets de malnutrition.
Voilà, il y a des problèmes de mauvaise alimentation, et encore une fois, ça aussi c'est relié à de la précarité, parce que quand on a moins d'argent, on mange plus
moins bien. Fred Eboko, une réaction par rapport à cette étude. Ça fait tomber quelques images qu'on a sur les migrants d'Afrique subsaharienne.
En fait, ça en fait tomber beaucoup. Et évidemment, le premier choc que j'ai ressenti, comme vous, comme tout le monde, c'était de constater que un des effets de la précarité était aussi de provoquer de la vulnérabilité, notamment au VIH. Et ça, c'était déjà assez surprenant, mais en même temps révélateur des effets de la précarité administrative sur le parcours des migrants. Et ça, c'est absolument fondamental à souligner. En gros, on a une confrontation entre toute la mobilisation de tous les acteurs de la santé publique depuis des décennies pour la santé des populations les plus vulnérables, les médecins, les associations, les chercheurs, etc. Et d'un autre côté, on a eu un durcissement de ce qu'on appelle poliment
les politiques migratoires,
de régulation des flux migratoires, pour dire ça de manière très très polie. Et en même temps, la confrontation entre les deux phénomènes a provoqué d'une part ce que Parcours illustre en quelque sorte, une vraie mobilisation avec de vrais résultats de recherche, une recherche qui a été menée avec moult précautions méthodologiques et éthiques sur une thématique qui était assez difficile à traiter, parce que tous les acteurs de la santé publique avaient peur de la stigmatisation. Et j'ai eu l'honneur d'être membre de la commission scientifique de l'ANRS qui a évalué le projet Parcours. Et tout de suite, en lisant le projet il y a quelques années, j'ai été saisi d'un enthousiasme que j'ai communiqué à Annabelle et qui justifie aussi le fait que je sois ici aujourd'hui.
Et on pourrait presque être étonné que cette étude n'ait pas été menée plus tôt, mais vous l'expliquez très bien d'ailleurs en conclusion du livre. Mais en fait, on avait très peur de la discrimination.
On avait peur de la stigmatisation, de la discrimination qui était déjà un facteur de fragilité des migrants. Mais les porteuses du projet, parce que c'était surtout des femmes, hein, Annabelle Desgrés-Duloup, France Lair, Nathalie Didion ont fait un travail absolument extraordinaire. Ont pris toutes les précautions justement pour éviter la stigmatisation et pour s'intéresser vraiment au parcours de vie de migrants. Comme vous l'avez dit, il s'agissait pas que du VIH, mais de voir un peu les conditions sociales et l'intégration ou pas d'ailleurs, ou les réseaux de désaffiliation, si j'ose dire, des migrants sur les territoires français.
Romain Birbindi, vous, une réaction par rapport à cette étude? Surpris aussi?
Oui, on a été un peu surpris, et ça a permis aussi de nous armer aussi dans le travail que nous faisons.
Dans le monde associatif.
À un moment donné, on pensait qu'il faut simplement dépister les personnes et les traiter, alors qu'il faut renforcer l'information et la prévention. Autre chose, ça concerne aussi notre public. À un moment donné, les gens pensaient que le VIH, c'est pour les gens qui sont sida, c'est pour les gens qui sont en Afrique et pas pour les gens qui sont ici. Et avec cette étude, on a des données qui sont probantes, qui sont scientifiques, qui prouvent que le VIH est bien et que les contaminations se font ici en France.
On va y revenir tout au long de cette émission sur tous les points de cette étude. Je vous propose d'abord d'écouter le témoignage de Sarah, qui est originaire de Guinée équatoriale. Elle est arrivée en France il y a une vingtaine d'années avec un visa de tourisme. Philippine Lebray l'a rencontrée dans les locaux de l'association Ekambéré, qui vient en aide aux femmes séropositives issues de l'immigration subsaharienne.
J'ai découvert que j'étais séropositive parce que j'étais très très grippée. Je suis allée voir un médecin. C'est où le médecin me l'a annoncé. Et il m'a demandé d'appeler mon compagnon. Il est arrivé. Le médecin a annoncé la nouvelle à mon compagnon. Mais sauf que mon compagnon, moi, à l'époque, j'étais un peu sous l'emprise du monsieur, quoi. Il m'a fait faire un déni. Il m'a dit, c'est faux, tu es pleine de vie, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être séropositif, tout un tas de trucs. Parce que le médecin m'avait envoyé voir un infectiologue. Je n'étais même pas allée voir l'infectiologue. Il m'a fait faire le déni et puis il m'avait à l'œil. C'est un monsieur même qui me séquestrait à l'époque. Il me violentait. J'ai même dû porter plainte plusieurs fois contre lui. Quelques années après, je suis allée voir un gynécologue parce que je voulais avoir un enfant. Et quelques jours après, le gynéco m'appelle et il m'annonce la séropositivité. Tout de suite, ça a fait comme un rappel dans mon cerveau. Et c'est ce gynéco qui m'a envoyé voir un infectiologue. Et dès lors, je suis sous traitement et là, je suis indétectable.
Et il y a eu combien de temps entre la première consultation et la consultation avec un gynécologue?
Presque 4 ans. Mais sauf que je voudrais quand même préciser une chose, c'est que en arrivant en France, je n'étais pas séropositif. Donc, j'ai contracté cette maladie ici. Et je suis sûre que c'est ce monsieur qui m'avait fait faire un déni. C'est sûr qu'il savait qu'il était malade.
Vous n'avez jamais utilisé de préservatif ou est-ce que vous avez quand même essayé?
Jamais. Je savais que c'était une très très grave maladie et aussi que pour l'éviter, il fallait utiliser des préservatifs et tout, sauf que la réalité, c'est que quelquefois, lorsqu'on est dans une certaine situation, qu'on a en face un homme qui vous promet ciel et terre, vous y espérez, surtout si cet homme est un responsable de famille et tout, vous ne pouvez pas imaginer que c'est cette personne même qui peut ne pas être responsable, quoi.
Et alors aujourd'hui, à quoi ressemblent vos conditions de vie?
Je vis dans une situation très, très, très précaire. Je suis en recherche d'emploi. Jusque-là, je n'ai eu qu'une seule réponse où le patron m'a répondu qu'il n'avait pas besoin de personne.
Parce que vous touchez combien en termes d'allocation?
600 et quelques, je ne peux
pas. Par mois?
Oui. Et comme je suis en sous-location, il faut bien que je paye la dame de la maison.
Parce qu'elle vous coûte combien, votre sous-location?
300 euros par mois.
Donc au final, il vous reste 300 euros chaque mois pour vivre?
Oui. C'est très difficile, c'est très difficile parce que même pour aller à l'hôpital, il faut payer le transport. Et quelquefois, moi, je me prends des amendes, quoi.
Parce que qu'est-ce que vous avez comme rendez-vous médicaux?
Oui, des rendez-vous médicaux. Il y a des prises de sang à faire. Il y a les psychologues à voir, les diététiciennes, des ateliers, des groupes de parole. Normalement, lorsqu'on est séropositif, ce serait mieux de suivre toutes ces activités-là pour mieux vivre avec le traitement et la maladie.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que vous, comme vous ne pouvez pas tout le temps payer les transports, par exemple, vous n'allez pas régulièrement au groupe de parole ou voir les psychologues, est-ce que vous êtes obligé parfois de renoncer?
Oui, quelquefois je suis obligée. J'essaye de choisir vraiment ce qui est important, nécessaire.
Vous m'avez parlé des conseils en termes d'hygiène de vie. Oui. C'est quoi les conseils qu'on vous a donnés sur l'hygiène de vie?
D'abord, première des choses, il faut manger équilibré, il faut dormir, boire beaucoup d'eau, faire une activité sportive, faire beaucoup de marches.
Mais il y a certains de ces conseils qui sont difficiles à suivre quand on est dans une situation très précaire. Enfin, par exemple, vous me dites qu'il faut bien manger, équilibré, mais ça coûte cher, non, de bien manger?
Oui, ça coûte cher. Heureusement aussi que l'association Ikambere est là. L'association nous donne un colis alimentaire toutes les deux semaines. Et bon, pour une personne qui est toute seule, elle peut arriver à gérer. Mais quelquefois aussi, pas tout à fait.
Parfois, c'est pas assez?
Oui. Quelquefois, je n'ai même pas mon repas du soir. Et c'est difficile, quoi.
Et le logement que vous occupez, il est décent?
C'est dans la cave d'un pavillon. J'ai fait faire des travaux pour boucher le dessous des portes et tout, et tout, et tout, même jusque-là. Tout le temps, quand je me lève dans la nuit, je trouve des limaces dans mon salon. Je ne suis pas tout à fait à l'aise, Et bon, j'ai des dossiers de logement, j'attends des réponses, mais je n'y peux rien.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la santé des Africains immigrés en France. Annabelle Desgrés-Duloup, j'aimerais votre réaction à ce témoignage de Sarah. J'imagine que c'est assez révélateur de ce que vous avez vu pendant votre enquête.
Oui, tout à fait. Du coup, je voudrais faire un petit point sur qu'est-ce qu'apporte, pourquoi est-ce qu'on fait des études finalement et des enquêtes comme ça, puisque ces situations, exactement.
Oui.
Sarah a très bien décrit sa situation. Tous les responsables d'associations connaissent. À quoi ça sert les enquêtes? Ça sert en particulier quand elles sont quantitatives comme la nôtre. Elles apportent du chiffre et elles apportent du chiffre qui va montrer que c'est pas seulement la situation de Sarah. C'est pas la situation de quelques personnes qui par des circonstances particulières sont arrivées en France, ce sont des situations qui touchent une grande majorité des gens qui arrivent en France. Et voilà, du coup, pour nous, ce qu'on a pour traduire ce que dit Sarah en termes entre guillemets scientifiques, on s'est dit combien de temps il faut pour être dans une situation à peu près stable ou en sécurité en France, c'est-à-dire avoir juste un logement à soi, un toit, quitte à ce que ce soit ce que décrit Sarah, c'est-à-dire
une sous-location, dans la cave, etc., relativement cher pour vivre dans la cave,
mais au moins voilà, au moins quelque chose où on dépend plus d'un monsieur comme elle a décrit au début, c'est-à-dire d'un monsieur qui ok vous protège mais
en échange de relations sexuelles,
voilà, et puis du coup qui peut vous donner le virus du sida au passage. Donc voilà, combien de temps ça prend pour avoir un toit à soi, pour avoir une petite activité rémunérée ou une grosse activité rémunérée, mais quelque chose qui vous ramène un petit peu d'argent, et puis pour avoir des papiers, le minimum qui vous permet de ne pas aller à la préfecture tous les 2-3 mois. Mais ça prend 6 ans pour plus de la moitié des femmes, 7 ans pour plus de la moitié des hommes qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc voilà, donc c'est à ça que sert une étude comme ça, c'est de dire la situation de Sarah, c'est pas que Sarah. Voilà, c'est pas une situation isolée.
Et ce qu'elle raconte en disant finalement des relations sexuelles un peu contraintes, en gros en échange de l'hébergement, on sent un non-choix et du coup on le comprend bien, un risque de contamination du VIH-SIDA, ça aussi c'est quelque chose que vous avez fréquemment vu chez les femmes.
Alors c'est même quelque chose que statistiquement on a pu prouver statistiquement que les années où on n'a pas de logement et les années où on n'a pas un titre de séjour correct qui permet justement d'être sécure, ben ces années-là on a plus de relations contraintes, comme décrit Sarah, et c'est directement lié à des infections VIH.
Et à de la violence.
Parce que c'est à de la violence, et on voit, alors là je vais vous donner un chiffre très très éloquent, les femmes qui vivent avec le VIH aujourd'hui en France et qui ont été infectées en France, elles sont 15% à dire avoir subi de la violence sexuelle. Donc 15%, c'est énorme. C'est une femme sur 7. C'est 4 fois plus que les autres.
Comment vous avez mené cette enquête ?
Alors, c'est une enquête qu'on a menée...
Parce que vous êtes appuyé, par exemple, sur des associations.
Alors, on a été très aidé par les associations pour déjà sensibiliser la communauté africaine à l'intérêt d'une telle enquête. Parce que, comme ça a été dit au début, le risque, c'était la crainte de la stigmatisation. Ensuite, on a été très aidé par les hôpitaux, les structures de santé. Parce que pour éviter, justement, de mettre les gens qu'on allait interroger dans des situations difficiles, on a choisi de les interroger dans les structures de santé, donc les hôpitaux, les centres de santé, qui sont des lieux de protection, en fait. On peut aller, si on n'a pas de papier, quand on va dans un centre de santé, dans un centre hospitalier, on est protégé.
Soigné.
Voilà, on est soigné, protégé. Donc on est allé dans 73 structures sanitaires et on a travaillé avec les médecins qui proposaient à leurs patients africains de participer à l'enquête. Et ensuite, on avait un enquêteur qui interrogeait pendant une heure. Donc c'est une enquête qui a pris son temps pour justement, alors quand une heure c'est en moyenne, hein, ça pouvait être 2 heures quand la vie était compliquée, mais
voilà. Justement toutes ces questions sur le parcours, d'où vous venez, combien de temps ça a pris, toutes ces questions là.
C'est même plus que ça, c'est qu'on partait de la naissance de la personne jusqu'à l'année en cours, et pour chaque année on faisait raconter l'histoire sur toutes ces années là, l'histoire pas seulement l'histoire en santé, mais l'histoire de la vie professionnelle, les études qu'on avait faites, les activités qu'on avait eues, la famille, les mises en couple, les ruptures de couple, les grossesses, l'ensemble de la vie des gens.
Mais tout ce qui contribue à un état de santé satisfaisant ou pas d'ailleurs.
Et ce qui compte dans la vie des gens, surtout.
Exactement. Fred Ebocco, donc vous avez fait partie du comité scientifique, et comment vous avez participé à cette enquête?
Alors moi j'ai toujours été extrêmement sensible à l'évolution et évidemment aux résultats de cette enquête. Il se trouve que Annabelle et moi nous sommes dans le même laboratoire aujourd'hui, donc j'ai vu arriver les premiers résultats. Je pense que j'ai dû manifester très vivement ma curiosité et surtout mon admiration vis-à-vis du travail qui a été accompli. Et après, donc moi j'ai commencé à lire les résultats et Annabelle, évidemment, que je voyais à peu près tous les jours, m'a proposé de participer à l'écriture d'un chapitre de l'ouvrage qui porte en gros sur les leçons politiques de parcours, en envisageant finalement les personnes qui ont été interrogées comme des archives, en quelque sorte des effets de la précarité à partir de leur corps, puisque la démonstration a été faite que à peu près 1 sur 2 parmi les personnes interrogées, une personne sur 2 a été infectée sur le territoire français. Donc un territoire dont la précarité administrative peut produire de la maladie.
Et comment on fait dans ces cas-là pour mettre en place une santé publique et de la prévention? Et on verra ça justement dans la deuxième partie. On en reparle juste après les informations dans 3 minutes.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la santé des migrants en France, d'ailleurs plus particulièrement des migrants d'origine d'Afrique subsaharienne. Ils sont trois autour de cette table pour en parler. Annabelle Desgrés-Duloup, qui est démographe, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Elle a donc publié Parcours de vie et santé des Africains immigrés en France. C'est un livre qui paraît aux éditions La Découverte. Également avec nous, Romain Birimbindi, qui est directeur de l'association Afrique Avenir à Paris, et Fred Eboko, qui est directeur de recherche à l'IRD et directeur adjoint du Centre Population et Développement de l'Université Paris-Descartes. Et je vous rappelle le téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Nous avons justement au téléphone Ousmane, qui nous appelle de Brême en Allemagne. Ousmane, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Ousmane. Racontez-nous votre parcours.
Oui, bon, ça n'a pas été facile. Parce que en arrivant en Grèce...
Vous avez quitté d'abord votre pays en 2011, c'est ça?
Oui, en 2011. Et après atterrir en Turquie, et Turquie et la Grèce. Et là-bas, ça n'a pas été du tout facile. Parce que les immigrants là-bas mangent dans la poubelle. Alors, quelqu'un qui mange dans la poubelle, qui se réveille matin pour aller chercher quoi manger, au lieu d'aller à la blangerie, non, c'est dans la poubelle, on cherche à manger.
Oui. Vous viviez à la rue à l'époque?
Alors, oui, tout le monde vit à la rue en Grèce, tout le monde, surtout ceux qui sont à Athènes. Bon, je parle pas de ceux qui sont à Thessalonique, parce qu'ils ont au moins des églises qui les accueillent souvent. Mais pour aller
et vous avez vu autour de vous, vous avez vu autour de vous beaucoup de personnes tomber malades?
Oui, beaucoup tombent malades par la déception de l'environnement et ce qu'ils attendaient, c'est pas ça. Et beaucoup aussi tombent malades en même temps parce qu'ils mangent pas bien et ils ne dorment pas bien. Ils ne sont pas habitués au climat de froid par rapport à ça. Il y en a qui dorment dehors. Alors,
c'est des conditions de vie très difficiles. Vous avez finalement, puisque vous êtes en Allemagne aujourd'hui, vous avez abouti en Allemagne. Comment s'est passé l'accueil en Allemagne?
L'accueil en Allemagne, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même j'ai entendu des témoignages, la dame qui témoignait par rapport aux femmes qui sont violées, ça et ça. Il n'y a pas ça en Allemagne, à moins que, bon, il y en a qui cherchent leur propre maladie. Sinon, en Allemagne, il n'y a pas ça. Parce qu'en Allemagne, vous êtes pris en charge du tout, du tout, du tout.
Vous avez eu un bilan de santé en arrivant, on vous a appris l'allemand. Et aujourd'hui, comment allez-vous?
Bien.
Bien.
Oui. Et je me sens bien, et puis mon entourage, je vois tout le monde aussi, se sentent heureux. Bon, c'est tous ceux que j'étais avec eux en Grèce.
Et vous vous sentez marqué par votre parcours migratoire?
Bien sûr, c'est ça qui me fait suivre aujourd'hui des thérapies. C'est ça qui m'est
voilà, vous voyez aujourd'hui une psychologue pour vous aider parce que ça reste difficile. Vous êtes marqué par cet épisode. Annabelle Desgrés-Duloup, ce que raconte Ousmane rejoint ce que vous avez pu entendre de parcours migratoire. Il y a déjà l'arrivée en France qui est particulièrement difficile. Est-ce qu'on peut dire plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années? En France ou en Allemagne, en Europe, je devrais dire, pardon.
Oui, plus difficile. Alors, nous, Ousmane a une connaissance bien meilleure que celle que je peux avoir de la difficulté de l'arrivée en France. Notre étude, en fait, elle s'est passée en 2012-2013, donc un petit peu avant ce qu'on appelle la crise migratoire et l'arrivée. Et dans cette étude, on interrogeait à la fois des gens qui étaient arrivés en avion avec un visa, et puis des gens qui étaient arrivés comme Ousmane. On a vraiment l'ensemble des types d'arrivées qui sont très divers. Hein. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des difficultés que racontent les gens, elles empirent plutôt dans la dernière décennie. Donc oui, on voit bien que c'est de plus en plus difficile d'arriver en France, en tout cas, en Europe.
Et ce parcours migratoire crée un traumatisme, c'est très clair dans ce que raconte Ousmane.
Alors, ça c'est quelque chose qui en France n'est pas du tout encore assez pris en charge, c'est effectivement la santé mentale. D'abord, c'est assez peu évaluée. On a peu de chiffres sur les souffrances psychiques chez les immigrés. Nous, notre étude au départ n'était pas ciblée. On n'est pas nous des psychologues, mais on a mesuré avec un petit outil de mesure. On voit qu'à peu près un quart des personnes, un petit peu plus les femmes que les hommes, mais ça c'est classique, disent qu'ils ont vraiment des symptômes anxio-dépressifs. Et on sait qu'en France, il y a une certaine...
C'est-à-dire des cauchemars la nuit.
Voilà, du stress. Se sentent du stress, ont déprimés, plus le goût de vivre, des inquiétudes, peur de sortir dans la rue. C'est pris en charge en partie par les associations, mais avec pas assez de moyens. Ça, on sait que sur la santé mentale, on manque en France de moyens pour prendre en charge la santé mentale, en particulier des immigrés, alors que c'est un énorme problème. Et nous, ce qu'on peut faire dans notre étude, c'est mettre en relation ces difficultés-là de psychiques avec le reste. Et on voit très clairement que quand on a dû fuir son pays ou quand on est dans une situation sans papier en France, mais c'est directement lié à de l'anxiété, la dépression.
Et donc forcément des conséquences sur la santé. Est-ce qu'il y aurait les mêmes résultats si on menait l'étude que vous avez menée en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans les pays du nord de l'Europe, en Espagne ou en Italie?
Alors là, moi je suis une scientifique, je vais vous dire que je n'en sais rien.
Est-ce que vous avez eu des échanges avec des collègues qui ont fait le même travail que vous, ou ce travail-là n'a pas été fait?
Alors, un travail similaire n'existe pas parce que c'est une enquête très originale. Après, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la santé des immigrés. Ce qu'on sait sur la santé des immigrés, c'est que il faut dire quand même que les immigrés les gens qui partent de leur pays, ce sont des gens qui sont en bonne santé, parce que il faut quand même être en bonne santé pour pouvoir partir.
Pour faire toute
pays.
Cette traversée.
Voilà, il faut. Après,
et ce ne sont pas les plus pauvres.
Et voilà, ce sont des gens qui ont des ressources, qui vont bien, voilà, qui sont des aventuriers. Donc, pour être un aventurier, il faut pas être fragile. Après, quand on a des parcours migratoires qui sont très traumatiques, on arrive dans des grandes difficultés. Et alors, il faut dire que la France, comme l'Allemagne, est un pays où la prise en charge de la santé des immigrés est plutôt bonne. Et par exemple, un indicateur très clair, c'est que l'accès à une couverture maladie, il se fait très vite. En France, on a une couverture maladie dès la première année de l'arrivée en France. Donc ça, à la fois, on a des grandes barrières à l'immigration et à la fois, d'un point de vue santé...
Il y a quelques points positifs, c'est bien de le dire. Merci Ousmane pour ce témoignage. Une réaction, Fred et beaucoup, dans le chapitre à la fin du livre, vous écrivez justement, maintenant, on n'accueille pas du tout toute la misère du monde en France. Cette idée est complètement fausse.
Oui, parce que venant d'Afrique subsaharienne, la majorité des migrations d'Afrique subsaharienne se font à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme l'a dit Annabelle, ceux qui partent représentent assez souvent une force vive des populations jeunes, pas forcément les plus pauvres, en tout cas avec des ressources psychologiques et intellectuelles qui sont plutôt élevées. Ce que je voulais mettre en exergue, c'est évidemment qu'il y a des situations de précarité, mais je voulais mettre en exergue la différence qu'il y a entre les personnes qui arrivent et toute la concaténation, pour utiliser un mot facile, tout l'enchaînement des causes de précarité qui va arriver ensuite sur le territoire français. C'est ça que je voulais mettre en évidence. Je voulais dire un mot sur le témoignage d'Ousmane par rapport à Sarah. Ousmane dit en Allemagne ça n'existe pas. C'est aussi une manière de dire que les violences ne sont pas systématiques. Et Annabelle a évoqué un pourcentage bien précis. Ce que je voulais rajouter.
Oui, elle a parlé de 15%. Enfin, vous avez parlé. Moi, c'est ce que j'ai entendu.
Ce que je voulais rajouter.
C'est pas tout le monde. Pense que l'histoire de Sarah, elle s'en retrouve.
On peut arriver à la situation de Sarah avec la même vulnérabilité vis-à-vis de l'infection sans avoir été violenté physiquement. Il y a un rapport de subordination entre une personne qui est demandeuse en quelque sorte de conditions
d'être
de vie
logée.
Un peu décentes, même une personne qui n'est pas forcément violente peut mettre Sarah dans la situation où elle s'est retrouvée. Et ça, c'est très important à préciser, parce que voilà, il y a quand même une inégalité entre la personne qui vous aide et la personne qui en demande.
Romain Birimbindi, vous voulez réagir?
Oui, effectivement, ce que Fred dit est juste. Des fois, les gens ne savent pas qu'ils sont violentés, puisque la personne là qui parlait tout à l'heure dit qu'il n'y a pas de violence en Allemagne, alors qu'elle existe. Alors qu'elle existe. Et des fois, quand nous interrogeons les personnes, puisque actuellement nous avons intégré parmi les données qui ont été publiées dans ces résultats, nous en avons fait un sujet, notamment la violence envers les femmes et les relations sexuelles non voulues. Donc, sur nos fiches d'entretien, cette question maintenant est posée systématiquement aux femmes qui viennent nous voir. Puisqu'on sait que nous avons maintenant différents outils ici en France où nous pouvons, que nous pouvons maintenant proposer aux personnes, en dehors du préservatif interne ou externe, nous avons maintenant la PrEP, la profilation pré-exposition qu'on peut proposer à ces femmes. Mais certaines femmes ne savent pas.
En fait, c'est un traitement antirétroviral, ce sont des ARV qu'on donne aux personnes qui ne sont pas contaminées
qui
par le VIH.
Qui sont séronégatives, oui.
Voilà, pour se protéger.
Oui, pour se protéger. Donc, nous avons toute une panoplie d'outils maintenant ici en France.
Femmes commencent à l'utiliser, ça, cette PrEP?
Là, on n'a pas encore, puisque il n'y a pas longtemps qu'on a mis en place les consultations PrEP, mais on sait que à l'avenir, les femmes pourront, ça peut être une alternative pour les gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas utiliser les préservatifs.
Une enquête comme celle d'Annabelle Desgrés-du-Loup est en train, en fait, finalement aussi de faire évoluer vos pratiques au sein du monde associatif.
Tout à fait. Notamment cette question des précarités, maintenant, ça devient faire
partie des questions que vous posez, que vous ne posiez pas avant.
Oui, des plaidoyers.
Et puis, elle vous donne des idées de questions à poser aux personnes. Oui. Annabelle Desgrés-du-Loup, quelles sont les barrières d'accès aux soins? Vous l'avez dit, en France, au bout de 3 mois, on peut, même si on est en situation illégale, bénéficier de l'AME, l'aide médicale d'État. Donc, on a une protection. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des barrières d'accès aux soins.
Alors la première barrière, c'est l'absence d'information. C'est que souvent quand on arrive, et en particulier quand on arrive de façon illégale, dans des conditions difficiles, d'abord la santé n'est pas sa priorité. On cherche d'abord à trouver de quoi manger, de quoi se loger. Et puis on ne sait pas qu'on n'a pas forcément connaissance de tous ses droits. Donc la première barrière, c'est ça, c'est le manque d'information. Ensuite, quand on a l'information, si on sait où aller... une fois que l'entrée est faite dans le système de santé, le reste suit bien.
Après, vous notez aussi quand même que la perte du droit de séjour, qui sont des situations qui arrivent ou de difficultés par rapport au droit de séjour, entraîne des ruptures aussi dans cette couverture maladie.
Voilà. Alors, selon un mécanisme qu'on ne connaît pas, nous, ce qu'on a mesuré, en fait, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, bien qu'on ait droit à une couverture maladie, même quand on est en situation irrégulière, on accède rapidement à une couverture maladie, mais quelquefois, on la perd. Pas souvent, hein, mais quelquefois, on la perd, et on la perd plus souvent quand on n'a plus de papier.
Vous constatez aussi, pour revenir à la question, votre point de départ, hein, qui était quand même le VIH-Sida et les hépatites, vous constatez un recours au dépistage très tardif.
Alors, pas assez précoce.
Vous avez raison. Nuance.
Non, parce que le constat, justement, par rapport à d'autres pays européens, le constat est quand même plutôt positif. C'est-à-dire, les chiffres, c'est... Donc, je vous ai dit qu'on met à peu près 7 ans, 6 à 7 ans pour avoir le triptyque de l'installation, c'est-à-dire logement, papier, métier. 7 ans, alors qu'on met que 2 ans à être dépisté pour le VIH. Donc ça va beaucoup plus vite.
Oui, mais quand même 2 ans.
Mais voilà, mais en fait, ça va beaucoup plus vite, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est pas suffisant par rapport à l'empreinte de l'épidémie dans cette population. Et pour l'hépatite B, c'est plus difficile, parce que les hommes en particulier, alors les femmes bénéficient des dépistages, comme on l'a entendu dans le témoignage de Sarah. Une femme est enceinte, elle, automatiquement, on lui propose le dépistage du VIH et le dépistage de l'hépatite B. C'est vrai pour les femmes qui sont nées en France aussi. Les hommes n'étant pas enceintes, ils n'ont pas cette proposition-là. Et donc, les hommes, il faut qu'ils attendent, pour plus de la moitié d'entre eux, il faut qu'ils attendent la 4e année après l'arrivée en France pour avoir un dépistage de l'hépatite B. Or, une personne sur 10 venant d'Afrique subsaharienne est porteur du virus de l'hépatite B chronique.
Oui, c'est une maladie très fréquente.
Voilà, donc c'est très fréquent et il y a trop de gens qui ne savent pas qui sont porteurs de cette maladie.
Et on sait à quel point, en tout cas pour la question du VIH-SIDA, c'est à peu près pareil pour les hépatites, c'est intéressant, en tout cas pour le SIDA, de se faire dépister très tôt, parce que la mise sous traitement le plus tôt possible a un intérêt pour la santé du patient, mais aussi pour éviter de la propagation du virus.
Voilà, c'est extrêmement important de le dire, et c'est pareil, Sarah disait maintenant je suis indétectable, ça on le sait pas encore assez, mais aujourd'hui les traitements existent, ils sont bons, il y a très peu d'effets secondaires indésirables, et une fois que la personne est sous traitement et qu'elle suit bien son traitement, elle est ce qu'on appelle avec un virus indétectable, et quand on a un virus indétectable dans le sang, ça veut dire aussi qu'on ne transmet plus ni à des partenaires sexuels, ni à un enfant.
Donc Fred et Boko, c'est là-dessus qu'en termes de santé publique à la fin vous dites, mais il faut être un peu pragmatique. Ne soyons pas trop politiques sur cette question, mais pragmatique. pragmatique. Par exemple, si on veut limiter cette épidémie de VIH-SIDA et limiter les contaminations, il va bien falloir faire quelque chose pour ces populations migrantes. C'est ça ce que vous dites, en gros.
Voilà, et faire de la vraie sensibilisation et s'inscrire dans le sillage de tout l'univers de la santé publique, c'est-à-dire avoir vraiment une attention particulière pour la prise en charge et la prévention des personnes originaire d'Afrique subsaharienne. Je voulais faire une deuxième remarque, avant que vous ne soyez inondés de réactions qui vont dire, mais il y a peut-être un peu de misérabilisme. Il y a eu des modifications des flux migratoires parce que les Ivoiriens, les Camerounais et les Congolais de Brazzaville vont vous appeler en disant,
mais ça va bien pour moi, qu'est-ce que vous racontez,
mais
c'est
on,
ça.
Mais déjà, on n'est pas arrivé en France en tant qu'aventurier, on est arrivé en tant qu'étudiant, on a eu un logement très vite, etc., etc. Donc, déjà, il y a eu ces flux migratoires qui se sont modifiés du fait même du durcissement des lois. Ensuite, le projet Parcours a considéré la population étudiante un peu à part, et Annabelle pourra dire un mot. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour certains pays, la majorité des immigrés, jusqu'à une période récente, étaient surtout des populations qui venaient pour poursuivre leurs études. Ça, c'est le cas du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Et ça s'est un peu modifié. Et il y avait des traditions de migration, plutôt en provenance du milieu rural, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, qui se sont poursuivies et modifiées. Donc, c'est pour apporter un peu de nuance par rapport aux migrations et mettre aussi en exergue le fait que l'étude Parcours n'avait pas pour objectif de parler des trains qui arrivent à l'heure.
C'est aussi. Ça. Voilà. On est allé plutôt voir ceux qui ont des difficultés, on est bien d'accord. Ouais. Une dernière intervention avec Diallo, qui nous appelle de Conakry en Guinée. Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez quitté votre pays pour des raisons économiques en 2012, c'est ça?
Oui.
On vous écoute.
Oui. Oui. Je suis quitté de mon pays pour aller en Europe pour des raisons économiques, pour faire l'aventure. Mais ça a été vraiment difficile pour moi. J'ai beaucoup souffert.
Vous êtes allé dans plusieurs pays d'Europe. Vous êtes allé dans plusieurs pays d'Europe et des pays du Nord, hein, Norvège, Lettonie.
Oui, et la Suède.
Oui.
Mais la manière dont les pays la traitent, certains pays, pas tous les pays, certains pays traitent les immigrés. Ça a changé mon comportement social.
Ça a été très dur. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, vous nous appelez de Conakry en Guinée. Ça veut dire que vous êtes rentré dans votre pays?
Je suis rentré depuis 2013.
Et pourquoi? Vous avez été expulsé?
Oui, j'étais expulsé. J'avais forcé pour refuser l'expulsion, mais j'avais constaté que si je refusais, ils allaient m'injecter. Ils avaient proposé de m'injecter des drogues pour que je revienne pour devenir un fou après. Donc, dès que j'avais compris cela, on m'avait déjà averti aussi de ne pas prendre des drogues ou bien des injections. Donc, j'avais refusé de prendre ça pour revenir sain et sauf, sans tomber mal.
Et comment s'est passé votre retour au pays?
Non, mon retour a été très, très difficile. On m'a attrapé en Norvège. On m'a ramené en Lettonie. En Lettonie, j'ai fait 6 mois de prison, seul, dans une cellule, seul, sans...
Et votre retour en Guinée-Conakry, comment ça s'est passé? Comment vous avez été accueilli par la famille et les proches?
Non, j'étais très mal accueilli parce que c'était une déception. Parce qu'on m'a pas accueilli presque. Je suis revenu, je suis rentré seul à la maison. Je suis parti même dans un autre pays pour rester là-bas quelques temps pour préparer mon retour à Conakry exactement. Donc, c'était très mal, très mal. On m'avait changé mon comportement social. Je suis devenu une personne vraiment haineuse. Je suis devenu vraiment... J'ai changé mon comportement, en fait.
Une immense déception sur ce qui vous est arrivé. Je voudrais que vous réagissiez à ça, Fred Eboko. C'est aussi un autre revers de l'immigration, c'est ce retour au pays et puis l'échec que ça représente de ne pas avoir réussi.
Dans ce que le dernier témoin dit, il y a plusieurs choses. Il y a cet échec de retour, vous êtes parti pour réussir, et notamment pour aider la famille, vous revenez, c'est absolument terrible, comme échec personnel et collectif.
Parce qu'il y a la pression de la famille.
Parce qu'il y a la pression de la famille. Et aussi, comme Annabelle disait tout à l'heure, et comme le témoin lui-même l'a dit, quand vous partez à l'aventure, vous mettez aussi beaucoup d'espoir dans ce que cette aventure est censée vous apporter. Donc ça, c'est un retour qui est terrible. Ensuite, les conditions de vie dans tous les pays où il est passé sont absolument catastrophiques et appellent aussi à une prise en compte de bons traitements des migrants, y compris quand ils sont en situation irrégulière. J'en profite, sinon je ne ferai pas mon travail, pour dire que que l'Union européenne délègue aussi à certains pays du Sud une partie de la régulation des flux migratoires et qui provoque des situations absolument terribles sur les migrants qui n'ont absolument aucune protection d'ordre juridique. Et c'est ce qui se passe dans certains pays d'Afrique du Nord contre lesquels se mobilisent des associations locales. Et je rends hommage à toutes les associations marocaines qui se mobilisent pour un traitement digne et humain des immigrants en provenance d'Afrique subsaharienne qui sont pas mal maltraités.
D'ailleurs, dans le dernier chapitre que vous faites dans ce livre, vous concluez sur la question du droit à la santé. Il va falloir parler de droits humains aujourd'hui,
oui,
sur cette question des migrants.
Non seulement ces droits à la santé, mais ce que parcours montre et ce sur quoi on peut extrapoler, c'est que c'est un bénéfice collectif. Restaurer la santé de quelques individus, c'est un bien pour tout le monde. Et notamment par rapport aux maladies infectieuses, mais pas que. Et il faut dire, et c'est déjà une information que donnait Annabelle, même des gens qui sont en situation régulière ont du mal à solliciter les services de santé alors qu'ils y ont droit, parce qu'il y a aussi un discours ambiant qui fait confondre leurs droits avec vous profiter du système.
Et donc ça reste compliqué.
Donc ça reste compliqué et il faut remédier à ça.
Annabelle Desrédulot, on arrive à la fin de cette émission, je voudrais bien vous donner le mot de la conclusion. On n'a pas du tout traité, on n'a pas parlé d'accès à la contraception, vous abordez beaucoup de choses dans cette enquête. C'est quoi la suite de cette enquête? Il faut faire quoi maintenant?
Alors, avant de parler de la suite de cette enquête, je voudrais quand même dire une chose.
Oui, vous avez 30 secondes, juste.
Alors, 30 secondes. On a beaucoup parlé des difficultés à l'arrivée. Il faut quand même dire qu'une fois que les gens sont installés, ça va bien.
D'accord, c'est bien
voilà,
de le dire.
Voilà, il faudrait le dire et qu'ensuite, le reste suit. La suite, c'est en association, justement, avec Romain Mirimidi, avec Afrique Avenir, avec les associations. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fait les constats des difficultés? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les quelques mots-clés, c'est voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il faut aller vers les gens parce qu'ils viennent pas forcément dans les services de santé. Il faut leur proposer, on voit bien que la santé, c'est avant tout une question sociale. Donc, il faut que les gens sachent quels sont leurs droits et quelles sont les ressources sociales, où trouver un logement, etc., pour qu'ils prennent soin de leur santé et d'eux-mêmes.
Merci beaucoup, Annabelle Desrédulot. Merci beaucoup aussi à tous les deux d'avoir été là. C'était passionnant, on pourrait en faire des heures. Je rappelle, Parcours de vie et santé des Africains immigrés en France, c'est paru aux éditions La Découverte. Et on termine comme tous les mercredis avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin de l'équipe de France de judo, médecin du sport. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Claire.
Vous revenez de Budapest où se sont déroulés les championnats du monde de judo. Vous êtes médecin de l'équipe de France, je l'ai dit. Et évidemment, on est curieux de savoir à quoi peut bien correspondre un suivi médico-sportif de terrain. Franchement, est-ce que c'est grâce à vous que les sportifs gagnent? Est-ce que c'est grâce à vous que Teddy Riner gagne?
Bon, Claire. Bon, d'abord, très, très heureux d'entendre votre voix. Et puis, j'ai envie de dire, il faut rester modeste. Un athlète n'a pas besoin d'un médecin pour gagner. Bon, il a besoin du médecin pour la prévention, pour bien sûr soigner ses blessures, avoir un bon suivi nutritionnel, la récupération, et tout ce qui peut entourer, bien évidemment, la performance. Mais j'ai toujours l'habitude de dire que plus que d'aider à la performance, le médecin du sport est plutôt là pour retirer les embûches, en fait, qui empêcherait l'athlète d'exprimer son talent. Donc, on soigne les petits bobos, on conseille sur l'hygiène de vie, et puis c'est une médecine évidemment qui est passionnante, parce qu'elle est globale, elle est holistique, comme on dit, c'est-à-dire on prend l'individu dans son intégralité, puis j'ai envie de dire qu'un bon médecin d'équipe, c'est avant tout un bon médecin de famille. On est au courant, des petits tracas, des problèmes, du contexte de chacun de ces athlètes, et c'est véritablement ça notre premier rôle. Alors, et puis, il faut savoir travailler en équipe. Il y a beaucoup d'intervenants, il faut savoir bien évidemment communiquer entre les différents membres de l'équipe, se limiter bien sûr à notre domaine de compétences, et puis bien sûr pas faire de récupération de résultats.
Donc c'est pas grâce à vous, restons modestes.
Voilà.
Jean-Marc Sen, j'imagine que la prévention dans le travail d'un médecin du sport comme vous est absolument un paramètre majeur.
Absolument clair, c'est essentiel. La prévention, c'est d'abord connaître le sportif par cœur, et puis proposer tous les moyens pour essayer évidemment de maintenir son état de santé. Ça doit être une obsession, la santé de l'athlète, c'est la priorité. Et puis bien sûr, la blessure arrive, elle arrive plus particulièrement quand le sportif est fatigué. Et là justement, la bonne connaissance du sportif aide justement à dépister ces périodes particulièrement charnières clés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan annuel, on fait une sorte de check-up en début d'année pour savoir où est-ce qu'on est. Et puis surtout, ce qui est essentiel, c'est le suivi quotidien. au bord du terrain, au bord du tatami en l'occurrence, et on va là, moi j'insiste beaucoup sur la récupération, le repos, le sommeil, tous les aspects également psychologiques, et puis quand cette blessure est là, bon, on la traite, évidemment, on fait de la rééducation, et puis après, c'est la remise sur le terrain, et là le médecin du sport intervient aussi, tout ça se fait en partenariat avec les entraîneurs, les préparateurs physiques, mais bien évidemment, le staff médical, le médecin, prononce la guérison complète de l'athlète pour lui permettre, bien sûr, de reprendre la compétition. Et là, tout l'art de la discipline, c'est vraiment de concevoir un suivi efficace en respectant l'éthique sportive et médicale, évidemment.
Et alors, en parlant d'éthique, on pense évidemment dopage. Comment prévenir ce fameux dopage? Vous avez un peu moins de 30 secondes pour nous le dire.
Bon, alors, il faut rappeler une vérité. Dans tous les sports, il y a du dopage, mais tous les sportifs ne sont pas dopés. Alors, évidemment, c'est un problème d'éthique sportive, c'est une tricherie. Jusqu'à preuve du contraire, il faut faire confiance aux sportifs, et puis il faut rester médecin, il faut écouter le sportif, il faut faire de la prévention et proposer des alternatives, puisque c'est la qualité du suivi médico-sportif qui sera une alternative, évidemment, au dopage. C'est donc les principes de la médecine qu'il faut appliquer. Bien évidemment, toujours penser à l'intérêt de la santé du sportif, être indépendant dans ses décisions médicales, et puis rappeler les règles, bien évidemment, du dopage, tout ça dans un esprit de confiance, on va dire, avec le staff médical. Voilà.
C'est une question importante. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Hessen. Et comme d'habitude, on retrouve cette chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.